Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Mardi 10 mars 2026, il est 6h avant minuit. Merci de nous écouter à Rennes sur le 88.4 FM et DAB+, et dans le reste de la Bretagne sur Radio Boa. Jeu concours, Syllab vous propose de gagner 2 places pour le concert de Marcellus Pittman, Phil San et Even et Yann Poleka. C'est le samedi 28 mars au BAM dès 20h30 dans le cadre du festival Do In It. Pour jouer, pour gagner, vous avez besoin d'un mot de passe. Il s'agit d'une ville, la ville d'origine de la tête d'affiche de cet événement. Marcellus Pittman, il s'agit de
Détroit.
Yeah, Detroit. Pour tenter votre chance, rendez-vous sur c-lab.fr. Tout de suite, le flash de Roman.
Plus aucune goutte de pétrole ne sortirait du Moyen-Orient jusqu'à nouvel ordre, c'est ce que promettent les gardiens de la révolution iranienne. Une réponse aux propos de Donald Trump, affirmant hier que la guerre en Iran est, je cite, « quasiment finie ». Mohamed Nehni, porte-parole des gardiens de la Révolution, prévient, je cite, « les forces iraniennes n'autoriseront plus l'exportation de pétrole vers le camp ennemi et ses partenaires ». Une déclaration qui laisse planer le risque d'un blocage du détroit d'Ormuz, par où transite près d'un cinquième du pétrole mondial. De son côté, Donald Trump menace de frapper l'Iran beaucoup plus fort si Téhéran bloque ce passage maritime. Il annonce aussi vouloir lever certaines sanctions pétrolières pour faire baisser les prix. Un revirement de politique dans la grande île malgache. Le président de la refondation de Madagascar, Michael Randrianirina, a annoncé hier la dissolution du gouvernement. Arrivé au pouvoir après la prise de contrôle des militaires en octobre dernier, il promet de nommer rapidement un nouveau premier ministre. En attendant, l'intérim sera assuré par les secrétaires généraux des ministères. Cette décision intervient après la mobilisation de la Gen Z le week-end dernier. Ils et elles dénoncent des promesses non tenues et demandent le départ du premier ministre, Erin Salama Rayaonrivelo. La situation est suivie de près par la communauté de développement d'Afrique australe. Elle presse les autorités d'organiser une élection présidentielle, pour l'instant prévue en 2027, après un référendum constitutionnel. Nouveau scandale dans le périscolaire parisien. Un animateur de l'école maternelle volontaire à Paris est visé par 3 plaintes pour viol sur mineur, déjà signalées plusieurs fois. Le périscolaire traverse une crise sans précédent avec des signalements qui se multiplient. Estelle revient sur cette affaire révélée ce matin par France Inter.
3 plaintes pour viol ont été déposées début février à l'encontre d'un animateur périscolaire de l'école maternelle volontaire dans le 15e arrondissement à Paris. Cet animateur avait fait l'objet de plusieurs signalements pour des cris et des violences psychologiques envers les enfants. L'homme est aujourd'hui suspendu, mais en décembre dernier, il avait seulement été déplacé de son ancien établissement, l'école Dominique, dans le 7e arrondissement. Une école au cœur d'un scandale d'abus sexuels.
Les parents de l'école volontaire ont appris la nouvelle par un mail de la directrice.
En effet, France Inter a recueilli le témoignage d'une mère. Elle confie qu'au début du mois de février, en pleine soirée, elle reçoit un mail de l'école de son fils indiquant qu'une plainte pour viol sur mineur vient d'être déposée contre un animateur. Elle décide alors d'interroger son petit garçon de 3 ans et, je cite, il dit le nom de l'animateur, se met à pleurer et dit que ça fait mal aux fesses. La mère portera plainte 2 jours après. Depuis, son fils n'a toujours pas été entendu par la brigade de protection de la famille. Les parents de l'école s'interrogent sur les raisons du maintien de cet animateur malgré les signalements. Selon cette mère, les responsables ont répondu qu'ils lui avaient laissé sa chance parce que les faits signalés n'étaient que des cris. Une justification qui choque certains parents. Quelle chance laisse-t-on aux enfants, s'indigne cette mère. De son côté, la mairie de Paris assure que l'animateur faisait l'objet d'un encadrement renforcé à la suite des premiers signalements. Une enquête de l'inspection générale de la ville a également été ouverte.
Rachida Dati dénonce ce matin une omerta totale de la mairie de Paris au micro de Ici Paris, Île-de-France.
Selon elle, je cite, ce scandale du périscolaire est d'une ampleur inédite. Elle rappelle aussi que les maires d'arrondissement n'ont pas la main ni sur le recrutement des animateurs, ni sur l'organisation du périscolaire. L'homme avait été exfiltrée en décembre dernier de l'école maternelle Saint-Dominique dans le 7e arrondissement de Paris, arrondissement dont Rachida Dati est la maire. Elle met directement en cause Emmanuel Grégoire, candidat à la mairie de Paris et ancien premier adjoint entre 2018 et 2024. Il était chargé du recrutement des animateurs périscolaires. C'est lui qui a recruté 14 000 animateurs sans diplôme d'État et sans contrôle pendant leur activité, critique-t-elle ce matin. De son côté, Emmanuel Grégoire affirmait le 16 février dernier sur Ici Paris Île-de-France n'avoir jamais eu aucune alerte sur son bureau lorsqu'il était premier adjoint. La maire socialiste sortante, Anne Hidalgo, a toutefois reconnu des erreurs dans la gestion de ce dossier sur France Inter le 18 février. Sous pression sur ce sujet, la municipalité a multiplié les annonces ces dernières semaines. Un plan de lutte contre les violences sexuelles à la mi-novembre, la suspension immédiate d'agents mis en cause, ou encore la création d'un poste de défenseur des enfants de la ville de Paris.
Cette affaire s'ajoute à une série de signalements dans le périscolaire parisien.
Selon l'AFP, l'année dernière, une quarantaine d'animateurs périscolaires ont été suspendus à Paris. La plupart pour violence, dont une vingtaine pour des faits à caractère sexuel. La chef du parquet des mineurs de Paris, Lisa Lou Whip, évoquait déjà en novembre dans Libération une augmentation très significative des signalements. 15 enquêtes pour agressions sexuelles dans des écoles maternelles ont été ouvertes entre le début de l'année 2025 et le 22 novembre. Les premières dénonciations remontent à 2018, à l'école maternelle Paul Dubois à Paris. Depuis, les signalements se sont multipliés dans la capitale. Une enquête de Cache Investigation diffusée fin janvier sur France 2 a également mis en avant plusieurs dysfonctionnements structurels dans l'organisation du périscolaire parisien.
À quelques jours des municipales, ce scandale relance le débat sur les violences sexuelles dans le périscolaire. Les candidats à la mairie de Paris se sont positionnés fermement sur ce sujet brûlant et leur programme regorge de propositions pour corriger le tir. Le plus gros coup de filet jamais mené contre la DZ Mafia. Aujourd'hui, 42 personnes ont été placées en garde à vue dans une opération visant le groupe criminel à dérive mafieuse, a annoncé le parquet de Marseille. L'enquête menée par la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille porte sur le fonctionnement et le financement du réseau, mais aussi, je cite, sur la direction d'un groupement ayant pour activité le trafic de drogue. Parmi les suspects, trois hommes déjà en prison considérés comme des chefs de l'organisation, les dénommés Mamine, Gabi et La Brute. Les interpellations ont eu lieu dans les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse et le Gard. Selon France Info, un avocat lyonnais est aussi visé, soupçonné d'avoir aidé certains membres du réseau depuis la prison. Un autre dossier sensible à Marseille à quelques jours de la fin de la campagne des municipales. Aujourd'hui, le parquet de Marseille annonce l'ouverture d'une enquête pour diffamation après une plainte du député Sébastien Delogu, candidat de la France Insoumise dans la ville. L'élu affirme être visé par une campagne de désinformation en ligne avec des accusations diffusées sur des sites internet et relayées par des faux comptes sur les réseaux sociaux. Il est notamment accusé de violences physiques et sexuelles. Selon le journal Le Monde, ces attaques ont aussi visé un autre candidat LFI, François Piquemal, à Toulouse. Le service français de lutte contre les ingérences numériques, Viginum, a été saisi pour tenter d'identifier l'origine de cette opération. En Bretagne, le durcissement des règles sur les pesticides tombe à l'eau. La commission locale de l'eau du bassin de la Vilaine devait se réunir ce vendredi près de Rennes pour valider le SAGE, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Mais ni l'État ni la FNSEA ne veulent durcir les règles sur les pesticides et les retenues d'eau. Les préfets ont annoncé mercredi dernier de vouloir refuser la signature du document, jugeant trois articles litigieux et non conformes à la loi. La FNSEA est allée plus loin en boycottant la réunion, empêchant ainsi tout vote. La situation indigne les associations environnementales, alors que le gouvernement a lui-même suspendu toutes ses décisions sur la politique de l'eau. Après une première vague d'artistes en décembre, le Festival du Roi Arthur complète sa programmation 2026 aujourd'hui. 22 nouveaux noms rejoignent l'affiche de Bréal-sous-Montfort, près de Rennes. En tête d'affiche, la boss lady Théodora ouvrira le bal vendredi 21 août, accompagnée du rappeur Diziz et du duo rock britannique Nova Twins. Le samedi, place à Louane et DJ Trinix et aux artistes Piche et Yamé. Le festival se clôture dimanche avec Jérémy Frérot, Orange Blossom et la rappeuse Asfar Shamsi. Une vingtaine d'artistes supplémentaires sont encore attendus, notamment pour la programmation gratuite du village en plein bourg.
C'était le flash de Romane, merci.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
C'est
à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Tout de suite, l'interview d'Héloïse.
Ce soir, on se dirige vers l'entre-deux-guerres aux côtés des femmes qui l'ont photographiée. Traversée contemporaine d'une archive militante, l'exposition New Women avec un X à la place du E s'installe à Rennes du 12 au 28 mars. Pour en parler, Salomé de la Outre Schwab est avec nous, t-shirt et barrette rose. Bonsoir.
Bonsoir.
Assise à vos côtés, collier en forme d'étoile argentée, Ambre Taligo. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes toutes les deux étudiantes de l'ESSAB à Rennes. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter l'exposition New Women en quelques mots ?
Alors, l'exposition New Women, du coup, ça a été lancé par nos professeurs à l'origine, Marjolaine Lévy, Georges Dupin et Étienne Auseret, dans l'idée de contribuer à rendre visibles des figures d'artistes qui ont été longtemps marginalisées, et des récits historiques qui ont été oubliés. Voilà, est-ce que tu veux me compléter ?
On peut peut-être ajouter le fait que, du coup, ça, c'est, on ne montre pas uniquement des photos de l'entre-deux-guerres de Lotte Jacobi et Tina Modotti, mais ça a été augmenté, puisque c'est un travail qui est traité déjà depuis 3 ans, en deuxième année avec des artistes contemporaines de la scène rennaise. Donc Jules Crinon de l'atelier MacLean, Johanna Rocard qui travaille avec le collectif L'Art de la Joie notamment, et Latifa Labissi qui présente une œuvre en collaboration avec Manon de Brouwer.
Alors on va présenter tout ça un peu plus en détail bien sûr, mais vu que cette exposition elle est menée dans votre école, par votre école, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur l'ESSAB pour les personnes qui ne connaîtraient pas ?
L'ESSAB, c'est l'École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne. Il y a 3 sections, design, art et design graphique. En ce qui concerne l'organisation de l'exposition, c'est vraiment la section design graphique qui l'a menée. Et voilà.
On peut ajouter que là, on parle du site de Rennes, mais l'ESSAB, c'est une école qui s'étend sur tout le territoire breton. Il y a une école à Lorient, une à Quimper et une à Brest également.
Donc sur votre site, vous expliquez que le cœur du projet, c'est de porter une attention aux problématiques contemporaines féministes et aux récits minorés. Est-ce que vous pouvez nous parler des valeurs et des combats de cette exposition ?
Oui, c'est une exposition qui... au travers de plusieurs thématiques qui sont notamment l'amitié entre femmes et personnes minorisées, toute la question du mouvement, de la danse, du corps et la place qu'il peut avoir. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose.
Du végétal aussi, donc oui, peut-être beaucoup. Qu'on peut parler d'écoféminisme également.
Il y a d'autres notions comme l'amitié, l'engagement, le mouvement. Tous ces thèmes se retrouvent un peu dans chaque œuvre qui sont représentées.
Exactement, et aussi dans la scénographie. Donc elle a été pensée pour être plus ou moins au sol, puisque du coup on n'a rien accroché au mur. Tout est soit posé donc sur des cartons, parce que c'est une scénographie faite à partir de cartons et de bois.
Un parcours au sol.
Donc c'est tout un parcours au sol et des pièces suspendues, notamment quand elles sont en tissu, parce qu'il y a beaucoup de choses en tissu, parce que c'est un matériau qui est beaucoup utilisé dans... le travail des femmes artistes depuis toujours. Et l'idée, c'est aussi que quand on visite cette exposition, on soit en mouvement et actif dans le parcours.
Et que ce soit vraiment pas classé par artiste, mais bien dans un souci de mélange justement des artistes Lotte Jacobi et Tina Modotti, mais aussi les artistes contemporaines.
Et les pièces des étudiants et étudiantes.
Voilà. Donc c'est vraiment pour ça que vous avez fait le choix pas traditionnel d'être au sol et pas d'œuvres accrochées au mur, c'est dans cette idée-là. Cette recherche, elle dure depuis 2 ans.
Trois ans.
Ouais. Pourquoi est-ce qu'il vous a fallu ce temps ? Comment vous avez organisé ces 3 années ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, déjà, la première année, elle s'est organisée autour d'un travail d'archives à partir des photos de Tina Modotti et Lotte Jacobi. Dans un second temps, la deuxième année, autour d'un travail d'entretien des artistes contemporaines. Et ensuite, là, en fait, c'est vraiment la clôture de la traverse, c'est l'exposition de l'ensemble de ces travaux et des travaux de l'ensemble des artistes.
Donc, vous l'avez dit, l'expo s'appuie notamment sur les travaux de Lotte Jacobi et Tina Modotti. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces femmes de l'entre-deux-guerres? Qui sont-elles?
Oui, alors Lotte Jacobi et Tina Modotti, c'est toutes les deux des photographes qui ont pris des places différentes dans la société et dans des actions politiques en fonction de là où elles étaient. Tina Modotti était surtout au Mexique. Et Lotte Jacobi plutôt à Berlin. Et en fait, toute cette exposition, elle vient surtout du fait que en fait, ces deux artistes se sont rencontrés. On sait que Tina Modotti a fait une exposition dans l'atelier de Lotte Jacobi à Berlin en 1930, mais on n'a aucune trace de cette exposition, aucune photo, aucune archive. Et c'est de là que...
C'est notamment ce qui a nourri l'envie de clôturer aussi cette traverse par une exposition où on ferait revivre en fait ces archives avec l'ensemble d'artistes qui s'inscrivent dans le territoire local. Johanna Rocard, Jules Crinon et Latifa Lavisi. Et l'ensemble des autres.
Pour rester un peu dans le passé avant de parler du présent, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette période de l'histoire en particulier? Pourquoi vous... Peut-être c'est les photographes en fait qui ont imposé la période au final.
En fait, les photos de Tina Modotti et Lotte Jacobi, on a une archive de certaines images grâce à notre professeur du coup, Georges Dupin, qui est photographe. Donc il avait en sa possession déjà certaines images de ces deux artistes, dont est parti le projet en fait.
Oui, et l'idée c'était vraiment cette rencontre en 1930, donc l'entre-deux-guerres.
Est-ce qu'il y a des productions, des photographies qui vous ont particulièrement marqué chez Lotte et Tina? Vu qu'on est à la radio, peut-être que vous pouvez les décrire pour nous donner à voir un peu ces photos qui vous auraient marqué.
Je pense qu'une des photos qui est importante et dont on parle souvent, c'est une photo de 4 épis de maïs qui a été faite par Tina Modotti, parce qu'elle a beaucoup travaillé avec des paysans, paysanne, couturière, et en fait il y a un moment où elle a commencé à prendre en photo beaucoup le végétal et ce qui était fait, donc il y a une très belle photo qui est un grand format alors que tout le reste de l'exposition est surtout des petits formats.
Moi je pense que c'est les photos abstraites de Lotte où du coup on perçoit plus que c'est, donc je pourrais pas vraiment hyper bien décrire, mais voilà, en fait ça fait des halos un peu des jeux d'ombre et de lumière que je trouve intéressants. Voilà.
En quoi selon vous leur travail est encore actuel?
Bah il est actuel parce que les questions justement de récits de femmes oubliées et une question qu'on doit aborder et dont on doit relever le travail de ces artistes-là. Et je pense que les notions d'abstrait aussi, la posture de New Woman est encore présente.
Oui, et de mettre en lumière aussi des personnes qu'on ne mettrait pas forcément en lumière, qui sont les travailleurs, les travailleuses, des femmes. Et ce genre de choses.
Donc, vous l'avez dit, l'expo met ses archives en dialogue avec des artistes contemporains et contemporaines. Vous les avez nommés déjà. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous les présenter?
Oui. Alors déjà, on peut commencer par Jules Crinon, qui est associé avec Hugo Marshall, et qui font partie d'un duo qui s'appelle Atelier MacLean. Donc, c'est des graphistes qui sont sur le territoire breton. Qui sont des graphistes militants qui font beaucoup de choses différentes, mais qui travaillent principalement en noir et blanc, des fanzines, des peintures sur tissu, mais aussi des affiches, des sérigraphies.
Ensuite, on a Johanna Rocard, qui est une artiste qui travaille, par exemple, sur des workshops autour du 8 mars, qui développe des bannières justement qui vont être activées lors de manifestations comme le 8 mars.
Elle fait aussi beaucoup de costumes. C'est elle qui travaille, j'ai plus le nom, mais elle crée des événements autour de la danse, des performances, où elle active les costumes qu'elle fabrique.
Voilà. Et ensuite, on a Latifa Lavisi, qui est chorégraphe-performeuse et qui Est-ce que tu peux me compléter?
Oui, elle reprend beaucoup de performances de femmes qui ont pu être faites avant en les réactivant et en les refaisant aussi en fonction de choses plus ou moins actuelles. Mmh. Et notamment, dans notre exposition, elle reprend la... Je ne vais pas retrouver le nom, évidemment.
On cherche.
Si, elle reprend une performance de Mary Wigman. Qui sont des figures importantes, notamment en termes de féminisme, qui vont bouger la manière dont on voyait les femmes à une certaine époque.
Donc leur militantisme à ces artistes contemporains, c'est ce qui les lie finalement à Lotte et Tina, si je comprends bien.
C'est ça.
Oui, et les notions de corps végétal, de mouvement et d'amitié, l'ensemble des notions qu'on a pu aborder dans l'exposition de manière générale.
Comment est-ce que vous les avez sélectionnés, ces artistes?
C'est nos professeurs en fait qui les ont sélectionnés. L'idée c'était vraiment de rester dans le territoire, de parler d'artistes locaux. Et du coup, donc les profs qui nous accompagnent, c'est Georges Dupin qui est photographe, Marjolaine Lévy qui est commissaire et historienne de l'art, et Étienne Auseret qui est graphiste. Et je crois que chacun d'entre eux a amené une des artistes, et c'est une discussion entre eux qui s'est faite.
Oui, et après, est-ce que ce sont les artistes qui ont réagi directement aux archives de Lotte et Tina, ou est-ce que ça a été votre travail à l'ESAB de les mettre en parallèle, de construire l'expo?
Nous, c'était vraiment à nous, oui, de construire l'expo. Justement, c'est pour ça qu'on a créé ces notions de corps, végétal, amitié, militantisme. C'est notamment pour les lier entre elles, voilà.
Et vous diriez que ces artistes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils et elles apportent de nouveau à la lecture de ces images anciennes? Est-ce qu'ils apportent une fraîcheur nouvelle?
Je pense que ça apporte surtout une nouvelle lecture et de voir ces images qui, de prime abord, pourraient sembler juste être des photos d'un temps ancien, on ne comprend pas trop de quoi ça parle et pourquoi. Là, on vient les mettre dans un contexte aussi où on a des artistes militantes d'aujourd'hui. Et donc, on comprend mieux pourquoi ces photos ont du sens et sont importantes.
Donc, vous êtes encore étudiante. Qu'est-ce que cette expérience de commissariat d'exposition, de construction d'exposition vous a apporté?
C'est vrai que je pense que toutes les deux, on avait... Enfin, tu me confirmeras, Salomé, mais un attrait particulier quand même pour cette mission de commissariat et de scénographie. Qu'on aurait aimé aborder justement, et comme on est dans une filière design graphique, ça nous permettait aussi de développer d'autres compétences en dehors d'un design graphique direct. Donc moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, et surtout de voir comment concrètement ça se passe, l'organisation d'une exposition, c'est très intéressant. Et surtout, voilà, coordonner un tel événement, c'est quand même... Moi, j'ai trouvé ça super, même d'être en lien aussi avec les Ateliers du Vent, qui est un lieu culturel important dans Rennes. Voilà.
Bon, je peux juste dire que c'est pareil.
Expérience à réitérer, alors pourquoi pas. Ouais. Demain, c'est le vernissage. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui est prévu et puis nous rappeler les horaires, le lieu du rendez-vous?
Oui, donc c'est rendez-vous au premier étage des Ateliers du Vent à partir de 18h.
Du coup, il y aura aussi une performance de l'installation de Louise Béguin, Pauline Villard et Lucie Boucher à
19h30. Et pour le vernissage, c'est un peu tout, mais on peut aussi ajouter le fait que le 19 mars, donc jeudi prochain, il y aura une soirée en lien avec l'exposition. Aux Ateliers du Vent aussi, où il y aura d'abord un atelier feutrage avec Antinéa Chapon, qui a aussi une de ses œuvres au sein de l'exposition, et ensuite un DJ set de Mode Silencieux, qui est le club de mix de l'école, et de Panoply, qui est une ancienne étudiante de l'école.
En quelques mots, pour terminer, vous aimeriez que les visiteurs, visiteuses retiennent quoi en sortant de votre expo? Question piège.
Je vais faire quelques mots, moi. Je sais pas, Salomé.
Que c'est important de donner et de laisser la place aux femmes et aux minorités de genre au sein de tous les lieux possibles, que c'est important de mettre en lumière ces récits qui sont souvent cachés ou ignorés. Et je pense que ce sera déjà pas mal.
Merci Salomé de la Outre-Chefab et Ambre Taligo d'avoir été avec nous ce soir. Pour rappel, vous êtes toutes les deux étudiantes à l'École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne, école qui est à l'origine de l'exposition New Women. Pour ne rien rater, rendez-vous dès demain 18h pour le vernissage et jusqu'au 28 mars au premier étage des Ateliers du Vent de 16h à 19h. Merci à vous.
Merci.
Merci.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
On passe à la chronique. Ce soir, c'est chronique fake news, comme tous les mardis. Et c'est à toi, Romane. On t'écoute.
Et on va commencer avec une question. Est-ce que vous avez regardé les Césars cette année, chers collègues ?
En partie.
Ouais, un petit bout.
Surtout les passages sur Jim Carrey.
Bah justement, cette année, Jim Carrey, c'était l'invité d'honneur de la cérémonie des Césars, le 26 février dernier. Il a reçu une récompense pour l'ensemble de sa carrière, lui qu'on connaît pour ses rôles dans The Truman Show ou The Mask. Mais est-ce que vous avez bien regardé s'il s'agissait vraiment du Jim Carrey ?
Je crois que j'ai pas fait attention.
Il avait une tête un peu pas comme d'habitude, je crois.
C'est vrai qu'il y avait des traits un peu louches. Hein.
Le Jim Carrey présent au César n'était pas le vrai, c'est la rumeur qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Selon plusieurs vidéos virales, l'acteur canadien, aperçu lors de la cérémonie, serait en réalité un sosie, voire un clone.
Regardez simplement ses yeux bleus. Personne n'a réalisé que la personne qui recevait le prix lors de la 51e cérémonie des Césars était en réalité une doublure de Jim Carrey. D'abord, les yeux de Jim Carrey ont toujours été d'un brun profond. Pourtant, l'homme qui acceptait le prix avait les yeux bleus, presque anormalement clairs.
Jim Carrey was just replaced by a clone. He showed up to the red carpet looking like a completely different person. Fans noticed his hair and eyes do not match his old self and his usual high energy is gone. Jim once warned that Hollywood is just an illusion and now the internet thinks the real actor is gone forever.
À l'appui de ces théories, des comparaisons de photos, sa démarche ne serait plus la même, son visage non plus, et même sa voix aurait changé.
Mais alors, info ou intox, Romane ?
Eh bien, c'est une bonne question. Commençons par ce qui peut troubler. Il est vrai que Jim Carrey se fait plutôt rare dans les médias ces dernières années, donc chaque apparition publique attire beaucoup d'attention. Et effectivement, son visage semble différent de celui qu'on voyait dans les années 90, mais entre les traits de Stanley Ipkiss et ceux de Truman Burbank et le Jim Carrey d'aujourd'hui, plus de 30 ans ont passé. Cette différence physique peut simplement s'expliquer par le temps, ou peut-être par quelques injections esthétiques, on ne sait pas. Mais face à l'ampleur de la rumeur, les organisateurs ont même dû intervenir. Le délégué général des Césars, Grégory Collier, a confirmé au magazine Variety qu'il s'agissait bien du véritable acteur canadien.
D'où vient cette histoire alors ?
Elle vient en partie d'une plaisanterie. L'artiste drag américain Alexis Stone, connu pour ses transformations spectaculaires, a publié sur Instagram une image représentant une prothèse ressemblant au visage de Jim Carrey. En légende, il suggère qu'il pourrait être le faux Jim Carrey de la cérémonie. Une simple blague donc qu'on peut capitaliser sur l'attention d'un public en doute, mais reprise très sérieusement par certains comptes complotistes. Et c'est là que la mécanique des fake news se met en route. On compare des images qui ont 30 ans d'écart, on interprète un changement physique, on y ajoute une pointe de mystère et la rumeur devient virale. Et ce type d'interprétations ne sont pas nouvelles. Les réseaux sociaux sont un véritable nid de théories clonesques sur des personnalités publiques. Certains affirment par exemple que Selena Gomez serait morte dans l'affaire de Jeffrey Epstein ou que Ariana Grande serait remplacée par un clone depuis quelques années. Bref, pour revenir au César, une chose est sûre, aucune preuve ne permet d'affirmer que Jim Carrey était un clone. Par contre, une autre question circule dans les coulisses. Rachida Dati a-t-elle vraiment quitté le ministère de la Culture 6 heures avant la cérémonie pour éviter le traditionnel tunnel des vannes des Césars ? Ça, c'est peut-être le prochain sujet de ma chronique. En attendant, les seuls propos qu'on peut vraiment valider ce soir, ce sont ceux de l'humoriste qui a intervenu magiquement au César, Alison Wheeler.
C'est fou cette cérémonie, c'est la première fois que je suis aux manettes. Quand je fais un truc un tout petit peu important, j'ai toujours envie de faire des dingueries. Oh, Benjamin, j'ai des phobies d'impulsion, j'ai envie de faire une Maziero. Oh, j'ai envie de me foutre des Tampax usagés derrière les oreilles et d'invectiver la ministre. Dites donc Catherine, vous en avez pas marre de sacrifier la culture sur l'autel du capitalisme le plus rance alors que vous êtes nommée depuis 2 heures?
Merci Romane, on te retrouve bientôt pour une nouvelle chronique fake news. J'espère que ce ne sera pas ton faux sosie satanique.
J'espère.
Ce sera bien toi.
On verra ça.
Bon allez, on écoute s'il y a un message sur le répondeur.
téléphone.
Téléphone.
Allô? Allô?
Syllabe, la radio sauvage.
Et non, pas de message ce soir. Laissez-nous un message. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de Jim Carrey? Vrai Jim Carrey? Faux Jim Carrey? On vous écoute. 02 30 96 25 35. Merci Timothée pour la technique. À demain dans 6 heures avant minuit.
Exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe, la radio sauvage.